Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes toujours sur Europe 1 à l'écoute de Clap. J'espère que vous avez passé un bon moment jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver le samedi. Et c'est parti pour notre troisième partie. Alors, évidemment, on va continuer à parler de James Bond. Et puis surtout, on va vous parler aussi des autres sorties de la semaine. Et pour m'accompagner dans cette merveilleuse tâche, j'ai le plaisir de recevoir Victor Bonnefoy du podcast Pardon le cinéma. Bonjour Victor.
Bonjour Laurie.
Et Franck Vallière de Canal+. Bonjour.
Bonjour.
L'événement, c'est évidemment l'épisode final de l'ère Daniel Craig dans le rôle de James Bond, No Time to Die, Mourir peut attendre. Je vais vous demander votre avis dans quelques instants. C'est compliqué de vous raconter l'histoire sans spoiler, donc je vous propose un extrait.
James, le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi. Comment est-ce arrivé ?
Bah, quand on vit assez longtemps.
Nous éradiquons des gens, tous les deux. Pour créer un monde meilleur.
Elle est des leurs ?
Je ne sais rien d'elle.
Dès que son secret remontera à la surface, ça te tuera à coup sûr.
Épisode final. Déjà, avant de commencer,
mais
est-ce
non,
que...
Bond reviendra, c'est marqué à la fin du générique de fin.
Épisode final de l'ère Daniel Craig, évidemment, et effectivement, c'est marqué à la fin, Bond reviendra, car il revient toujours, car Bond est éternel, oui. Déjà, tous les deux, est-ce que vous étiez client de Daniel Craig ?
Alors, moi, j'ai toujours été assez passionné par la performance de Daniel Craig dans James Bond, et notamment parce que, mine de rien, c'est le James Bond de ma génération. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec Daniel Craig en tant que James Bond, et il est apparu à un moment dans ma vie où j'étais un peu trop jeune pour prendre du plaisir sur les Pierce Brosnan qui avaient virillé complètement dans une bouillie de CGI et de gadgets un peu ratés. Et quand Bond arrive avec Daniel Craig, il y avait quelque chose d'assez revigorant pour les gens de mon âge, de quelque chose de plus humain, de plus fort, de plus puissant et même de plus violent. Il y avait tout un ensemble qui se créait et qui a culminé pour moi à l'époque dans Skyfall, qui est, je pense, le plus sublime de tous les Bonds avec Daniel Craig.
Moi, je suis pas du tout bondophile. James Bond, pour moi, c'est comme les crêpes. S'il y en a, j'en mange 10, mais s'il y en a pas, je peux manger autre chose.
Et du coup, Daniel Craig
au début me faisait l'effet d'un agent du FSB, quoi, froid, massif, un peu brutal. Bon, donc j'en avais pas grand chose à faire, pour être tout à fait sincère.
Voilà. Il a jamais été aussi humain que tous les autres Bonds. Je veux dire, il y a quelque chose dans le sentiment avec Daniel Craig, il y a quelque chose dans la passion, dans les amours qui est sublime.
Ah, mais là, c'est un truc générationnel, Victor, c'est pas possible autrement.
On va se battre.
Franck, il est resté sur Roger Moore, faut le laisser. Ouais. Alors, un avis sur Mourir peut attendre ?
Eh bien, je suis très content. Je suis très content de ce Mourir peut attendre parce que c'est toujours compliqué de conclure. On sait que les conclusions, c'est une véritable difficulté et que ça déçoit forcément. Et on l'avait vu vis-à-vis des premiers retours sur No Time to Die, la critique était divisée. Alors que ça n'a pas particulièrement de sens. C'est-à-dire que pour moi, Mourir peut attendre est seulement la conclusion, l'aboutissement de tout ce qui a été amené à partir de Casino Royale, à savoir un Bond plus humain qui est dans le relationnel, sur la place des femmes, même dans l'histoire des James Bond, où on n'est plus dans des James Bond girls un peu objets, et on a finalement des véritables relations avec des personnages comme Eva Green qui était arrivée, et puis le personnage de Léa Seydoux ensuite. Pour moi, c'est l'aboutissement de tout ça. Et quand j'ai vu surgir ça et là des critiques à droite à gauche,
d'une violence quand même.
Ouais. Je dirais même un peu réac, qui utilisait des termes comme Wokistan, etc. J'ai l'impression, mais avez-vous vu les quatre derniers James Bond ? En fait, ce n'est que l'aboutissement de tout ça. C'est la marche du temps, c'est la marche d'une époque qui avance et qui nous donne un film aux scènes d'action démesurées de la part de Cary Fukunaga, en plus qui avait déjà fait des scènes d'action folles dans True Detective saison 1 ou même dans Beast of No Nation. Pour moi, c'est l'aboutissement de Daniel Craig. C'est tout ce que j'attendais. Je suis ravi. J'ai même pleuré. Et un Bond qui vient me chercher au plus profond de mes émotions, ça me touche beaucoup.
Alors, moi qui ne suis pas bondophile, je vais vous dire que c'est simplement mon préféré de la saga. Alors, pas de la saga complète,
parce que
mais
c'est
de
celui
l'air.
Qui ressemble moins à un James Bond, en fait.
Peut-être. Et puis pour tout un tas de choses, en fait, je trouve cette relation avec son amoureuse est va croissante. Et
personnage de Madeleine, je vais parler assez doux.
Voilà. Et puis il y a plein de petites choses extrêmement intéressantes. Le dernier Carter, pour moi, sort du carcan du James Bond et on sent qu'on clôt quelque chose et part dans un délire qui pourrait être assimilable peut-être à certains jeux vidéo comme Metroid, par exemple. Et puis il y a l'utilisation de la femme. C'est ça. En fait, je crois que je sais pourquoi je suis pas bondophile à tout prix. C'est que c'est finalement pour moi Bond, c'est comme un virus qui cherche à survivre à chaque décennie que quelque chose arrive. Il y a une Bond girl qu'on verra dans le film qui est absolument géniale, mais
génial.
Qui passe pour une cruche.
Anna de Armas.
Oui, mais qui malheureusement est une comédienne de talent, mais n'a que 5 minutes dans le film. Voilà. C'est presque mon regret parce que dès qu'elle apparaît à l'image, elle crève l'écran et malheureusement, on la voit trop peu, on en veut plus.
Et surtout, on l'a fait un peu passer pour une cruche. Alors certes, qui fait de bons mouvements de karaté, la violence de l'époque moderne, très bien, mais il y a un truc avec les personnages féminins qui me gêne. Même le personnage de Léa Seydoux qui, dans un précédent, disait James, j'ai peur. Il y a toujours des James qui sont complètement inutiles et qui rappellent à quel point.
Attends, si on a peur, c'est normal.
Ça reste, mine de rien, la base mythologique du personnage de Bond, qui est montré comme ce socle qui ne bouge pas et qui tiendra.
Mais sur la place. Indestructible. Non, mais... Bond, c'est un pilier. Bond, il est rassurant. Donc, voilà, nous, les femmes aussi. Enfin, c'est pas être dégradant pour la femme que de dire qu'on a besoin parfois d'être rassuré par une présence masculine. Je trouve que vraiment, pour le coup, les Bonds ont vraiment évolué avec notre époque.
Ouais, enfin, ça reste
avec
un syndrome.
Avec le mouvement MeToo, avec tout ça.
Ça reste un syndrome patriarcal absolu, quoi. On profite de l'opportunisme d'un MeToo et de certaines affaires, George Floyd aux États-Unis, pour mettre une double 07 femme et noire.
C'est un non-débat. C'est un non-débat qui a fait réagir sur les réseaux sociaux pour dire attendez, 007, une femme noire. Pour moi, le film évacue le problème dès la première scène où les personnages discutent entre eux et viennent nous dire ce n'est qu'un chiffre et on s'en fiche. Et c'est ça que moi je retiens. C'est qu'au final, la figure de Bond est plus importante que son matricule. Bond reste éternel et par la présence de Daniel Craig, il devient plus fort, plus grand. Et je trouve qu'on n'a jamais autant célébré les femmes que dans la saga James Bond avec Daniel Craig.
À présent, mon ennemi est mon ennemi.
Il s'appelle Safine.
Qu'est-ce qu'il veut ?
Se venger ? Moi ?
Dès que son secret remontera à la surface, ça te tuera à coup sûr.
On écoute l'avis du plus grand nombre. On écoute votre avis.
Il y avait quelques moments de faiblesse, mais j'ai vraiment kiffé. La photographie est super bien foutue. Le générique est super, vraiment visuellement, c'est une dinguerie. Donc c'était vraiment une bonne découverte.
Très nostalgique parce qu'on a dit adieu à Daniel Craig et à 007. On a adoré. Mais je pense qu'il faut le voir une deuxième fois pour tout comprendre.
Globalement, le film est très bon. Il y a des très bonnes scènes d'action. C'est très bien filmé. Juste, moi, c'est la fin qui me déçoit.
Alors, on va passer à un autre film au cinéma cette semaine. C'est Tralala, le film des frères Larrieux avec Mathieu Amalric, Josiane Balasco, Mélanie Thierry ou encore Mai Wen. C'est un film musical plein de fantaisie. C'est l'histoire de Tralala, ce chanteur des rues sans abri qui atterrit à Lourdes et qui va faire plein de rencontres.
C'est Pat, c'est mon fils. Il est de retour.
Un autre homme.
Vite, quelques indices. Si dans tes baskets, tu veux que je me glisse, je suis moi. Quand je suis toi, je suis cool. Quand t'es cool.
Moi aussi, je suis cool quand tu es cool. Franck Vallière.
C'est un très bon film des frères Larrieux, assez surprenant car on y danse sur les cendres de Jacques Demy et les intégristes du cinéma de Demy vont sans doute un petit peu hurler parce qu'il y a une espèce de vulgarisation au sens noble du terme. C'est de la comédie musicale portée par de la hype française. Hein. On retrouve Jeanne Chéral qui a composé des chansons, Malik Djoudi qui d'ailleurs joue dans le film. Le tout est mené de main de maître par Renaud Létang qui est l'architecte sonore de Philippe Catherine. Ça devait être Philippe Catherine qui joue le rôle de Mathieu Amalric. Et au final, on y gagne, je trouve, parce que le côté lunaire qu'on connaît tous de Catherine est super, mais le personnage d'Amalric amène quelque chose qui relève beaucoup plus de Vernon Subutex et de quelque chose d'un peu plus acide, un peu plus profitant de la situation, car le concept, c'est donc un type qui usurpe, mais usurpé, c'est quand même un petit peu fort. En gros, c'est un mélange entre le retour de Martin Guerre et puis quelqu'un qui va se révéler et révéler aux autres le bonheur à côté duquel il passe quasiment quotidiennement. Le problème, c'est que tout ça se passe au cœur d'un potentiel mensonge. Et en musique, c'est absolument délicieux. La proposition artistique est assez joviale.
Victor Bonnefoy. Ça démarre bien.
Non, mais que c'est laborieux, tralala. C'est-à-dire que je ne comprends pas, et c'est vraiment une des choses qui me prend le plus la tête quand je regarde tralala, l'envie de faire une comédie musicale qui soit aussi anti-musicale, en fait. C'est-à-dire que choisir des comédiens qui ne savent pas chanter pour le plaisir de juste les voir déambuler sur des musiques pas franchement entraînantes et pas franchement mémorables, il y a quelque chose. Désolé, ils ont de la chance dans la bande-annonce d'en avoir trouvé deux potables pour essayer d'attirer un petit peu le spectateur. Il y a quelque chose que je trouve assez terrible quand on regarde tralala. voilà, c'est que on sent qu'il y a un plaisir communicatif qu'ils ont envie de nous donner, de nous transmettre autour de ce bonheur de la vie. On est à Lourdes, c'est beau, il y a Josiane Balasco, on passe des belles vacances, c'est super, mais en carte postale c'est mieux. C'est-à-dire qu'il y a un truc vraiment, quand je regarde Tralala, c'est que musicalement, je me demande déjà comment ils ont réussi l'exploit de réussir à rattraper toutes les fausses notes que font les comédiens quand ils essayent de chantouiller dans le film.
En enregistrant avant, en diffusant sur le plateau et en mélangeant les voix du direct avec celles qui avaient été préenregistrées.
Mais c'est l'enfer. On sent à quel point ça ne marche pas. Pour moi, ça ne fonctionne pas. La proposition déjà technique ne fonctionne pas. Et alors après, l'histoire ne m'emporte pas beaucoup parce que cette histoire de quelqu'un est revenu, est-ce vraiment lui? N'est-ce pas vraiment lui? C'est un concept, un poncif de cinéma qui a été revu déjà 40 fois. Est-ce qu'on peut pas passer à autre chose au bout d'un moment et nous transmettre d'autres émotions, d'autres propositions? Je dois dire que quand je regarde Tralala, je reste particulièrement en dehors et je m'amuse très peu.
Bon. Il suffira pour se convaincre du contraire de ce que tu viens de dire, Victor, de regarder les deux passages chantés de Mélanie Thierry, dont j'attends vivement que son mari lui écrive un album, et qui sont des monuments de douceur, de mélancolie, de désir féminin, qui rappellent d'ailleurs Amour Amour que chantait Deneuve dans Podane. Enfin, c'était pas Deneuve, mais c'est une autre histoire.
On écoute votre avis.
Super, vraiment super.
Alors c'est très très bien, c'est bien joué, bien chanté surtout, mais c'est vraiment original comme film et j'ai vraiment bien aimé.
J'ai pas trop compris le projet, mais c'est pas nul pour autant, mais j'ai vraiment pas trop compris.
C'est un peu perché, mais c'est sympa.
Et puis moi je voulais vous parler d'un joli film cette semaine avec Zoé Adjani et Amira Khazar. Oui, Zoé Adjani de la famille d'Isabelle Adjani, c'est sa nièce. Un film sur l'émancipation, sur les origines, ça s'appelle Cigare au miel. C'est l'histoire de Selma qui a 17 ans, qui vit à Nuit avec ses parents. C'est une étudiante franco-algérienne qui cherche vraiment sa voie entre les injonctions très contradictoires de ses parents à la maison et puis sa vie d'étudiante en école de commerce. C'est un film qui est coproduit par les frères Dardenne, c'est un premier long métrage.
Et Danny Boone.
Et Danny Boone aussi, ouais. C'est vrai. Et c'est un film un peu dans la veine d'une histoire d'amour et de désir dont on parlait il y a quelques semaines.
Tu viens de passer l'oral ?
Ouais.
Et toi, t'es en quelle année ?
En dernière année. Ça fait qu'il nous reste que quelques mois pour vivre le grand amour.
J'ai sacrifié ma carrière pour que tu réussisses brillamment.
Je t'ai jamais rien demandé, moi.
Pourquoi j'ai jamais rien demandé ?
Tu ne cries pas, les voisins n'ont pas besoin de t'entendre.
T'as peur de ce que pensent les autres ? Les Français, c'est ça ?
Je te comprends, je suis comme dévergondé.
Tu veux que ton père nous quitte ?
T'es pas bien.
Arrête.
T'es pas bien.
Tu sais très bien que ton père et moi, on est contre les mariages arrangés.
Vous m'arrangez quand même une rencontre, là, tout de suite.
En un mot, Franck Vallière.
C'est un très beau film sur la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet maladroitement à ses enfants? Qu'est-ce qu'on accepte de ses parents? Et comment on se débrouille dans un pays dans lequel on est né et dont on ne porte aucun signe physique de ses origines, la Kabylie, par exemple? Et comment se place-t-on au milieu de tout ça? Comment trouver sa voix? C'est très beau. C'est un très joli portrait de femme qui est filmé au plus près.
Et Zoé Adjani qui crève l'écran et qui va faire beaucoup parler d'elle. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous de Clap, le coin des amoureux du cinéma. Je vous souhaite un merveilleux week-end à l'écoute d'Europe 1. Tout de suite, c'est William Lémergie qui s'occupe de vous. Et moi, évidemment, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout, allez au cinéma.